Un changement majeur s'est opéré à la faculté de droit de l'Université Capitole.
La faculté de droit et sciences politiques devient l'école de droit de Toulouse. Quelles sont les implications de ce changement institutionnel? Nous en parlons ce matin avec Mathieu Poumarette. Bonjour.
Bonjour Isabelle.
Vous êtes le doyen de l'école de droit de Toulouse. Merci d'avoir répondu à l'invitation de Radio Présence. Alors, comme ses sœurs, la faculté d'économie devenue la Toulouse School of Economics, la TSE, l'IAE devenue la Toulouse School of Management, c'est au tour de la faculté de droit et de sciences politiques de changer de dénomination. Dans quel cadre cette modification s'inscrit-elle?
Alors, ce changement de dénomination, c'est en fait un changement de statut, puisque la faculté de droit et sciences politiques était auparavant une UFR, une unité de formation et de recherche, de manière assez classique, et elle a choisi de se transformer en école interne, qui est un statut spécial du Code de l'éducation, qui permet à des composantes d'une université d'acquérir cette forme nouvelle juridique qui est une école, comme est la TSM et la TSE. Mmh.
Est-ce qu'elle dépend toujours quand même du ministère de l'enseignement supérieur?
Oui, bien sûr, c'est une école interne à une université, elle reste publique comme les autres écoles de notre université.
D'accord. Dans quelle mesure cette nouvelle école de droit de Toulouse gagne-t-elle en autonomie?
Alors, c'est une des marques de ce qu'est une école interne. C'est vrai que c'est avant tout une réorganisation interne qui conduit notamment l'ensemble des personnels qui concourent à l'école de droit, à être dans le giron de l'école. Et donc, en interne, dans notre université, il y a une réorganisation qui va faire en sorte que, notamment, les personnels de scolarité ou les gestionnaires de l'unité de recherche vont venir dans le giron de l'école. Ainsi, l'université va continuer, évidemment, à apporter tous ses services de soutien à l'école, mais celle-ci va pouvoir gagner en autonomie. In fine, l'objectif, c'est qu'elle soit plus souple dans son fonctionnement et que les objectifs politiques puissent être atteints plus simplement.
Mmh. Est-ce qu'il y a des impacts sur les personnels?
Alors, les personnels, en réalité, comme vous venez de le dire, notamment les personnels administratifs, eh bien, viennent sous la hiérarchie de l'école de droit et ne sont plus directement sous la hiérarchie de l'université en tant que telle, mais ce sont tous des personnels de l'université.
Mais ça ne change rien pour les professeurs, les enseignants.
Les professeurs sont eux aussi des personnels de l'université et vous le savez, effectivement, ils sont dotés d'une indépendance constitutionnelle. Donc, effectivement, ça ne change rien pour eux.
Ça ne change rien pour eux. Alors, c'est une école de droit qui, maintenant, vous avez dit que c'était un changement de statut, monsieur le doyen. Quelles sont les conséquences pour les étudiants eux-mêmes?
Alors, effectivement, au-delà de cette réorganisation interne, l'objectif, effectivement, est de mettre en place un mode de fonctionnement qui, en réalité, aura deux jambes, deux pieds, en quelque sorte. À la fois, c'est une école. Et donc, ce que nous souhaitons, c'est prendre le meilleur de ce que sont les écoles, notamment les écoles de commerce ou les écoles d'ingénieurs, concrètement pour mieux accueillir les étudiants, mieux les accueillir dès leur entrée, mieux les accueillir au cours de la formation, lors de l'évaluation, et donc de leur apporter un certain nombre de services. Par exemple, ça peut paraître anodin, mais ça ne l'est pas du tout pour notre université et notre faculté, la création d'un BDE, d'un bureau des étudiants, qui va rassembler l'ensemble des étudiants en droit et leur offrir un certain nombre de services.
C'est ça n'existait pas avant.
Ça n'existait pas en tant que tel avant. C'est un des exemples parmi d'autres. Et donc, et de l'autre côté, faire comprendre aussi aux étudiants, c'est vraiment essentiel que nous sommes dans une université et donc que tous leurs enseignants ont une particularité qui est fondamentale, c'est qu'ils sont tous des chercheurs. Oui. Et donc l'idée, c'est d'allier le meilleur des deux mondes, en quelque sorte, les écoles et l'université, pour dire aux étudiants, ben voilà, vous êtes dans un univers, effectivement, qui va être peut-être plus dynamique du point de vue de la vie étudiante et aussi du point de vue de la vie des alumni, qui est parfois, effectivement, le point noir dans les universités.
Donc c'est les alumni, ce sont les anciens élèves.
Les anciens élèves. Et donc là aussi, effectivement, l'objectif, c'est de continuer à développer mieux que ça ne l'est réellement aujourd'hui, le réseau alumni. Et de l'autre côté, de leur dire, ben, vos enseignants sont des chercheurs, ça a du sens d'avoir des enseignants-chercheurs, parce que vous êtes nécessairement à la pointe de l'actualité, à la pointe des recherches, lorsque vous étudiez dans une école interne à une université.
Avec un échange peut-être qui sera plus important, justement, entre cette partie de la recherche et puis les étudiants.
Oui, je pense que ça, c'est un point tout à fait essentiel. C'est vrai que, d'abord, aujourd'hui, ce n'est pas forcément le cas. Les étudiants ne savent pas forcément que nous sommes des chercheurs. Donc, l'objectif, c'est de le mettre en avant, que ce soit réellement un atout lorsqu'ils viennent chez nous. Et puis aussi, notre objectif à plus long terme, en quelque sorte, c'est aussi de donner qu'on essaie de le faire déjà, mais de donner encore plus le goût de la recherche aux étudiants, parce que dans un monde un peu compliqué, ça développe leur esprit critique notamment, et ça leur permet aussi d'avoir un regard sur le monde qu'ils arrivent à se forger grâce aux enseignements et aux échanges qu'ils ont avec les enseignants.
Est-ce qu'il y aura aussi, dans cette nouvelle école de droit, une mise en place de bourses qui va changer aussi ?
Oui, alors effectivement, d'ores et déjà, nous avons commencé depuis quelques années, un peu timidement, mais à essayer de mettre en place des bourses au mérite et des bourses d'excellence. Donc les bourses d'excellence, elles sont destinées aux meilleurs étudiants, sans aucun autre critère. Et les bourses au mérite mixtes, un critère, on va dire, éducatif et social. L'objectif, c'est de monter en puissance sur ces bourses-là pour aller effectivement continuer à aider le mieux possible les étudiants les plus méritants ou les meilleurs qui, par leurs résultats, qui effectivement, en quelque sorte, tirent aussi leur promotion d'étudiants et donc petit à petit de monter en puissance sur ce point-là. On l'espère avec l'aide aussi de nos réseaux, de nos alumni qui viendront effectivement mettre en place ou contribuer à ces bourses.
Vous avez employé ce mot d'excellence qui peut faire peur et qui peut parfois faire hérisser quelques poils sur le dos de personnes qui peuvent se dire, qui peuvent craindre qu'il y ait une forme de sélection. Qu'est-ce que vous répondez ?
Alors, deux choses. D'abord, le nom école, parfois, effectivement, fait craindre une augmentation des frais d'inscription et une sélection. Alors, bon, il n'y a pas d'augmentation des frais d'inscription avec la création d'une école. Nos droits sont ceux fixés par l'État, donc il n'y a pas de changement. Et d'autre part, les modes d'entrée ne changent pas. Alors, je ne vais pas vous dire qu'il n'y a pas de sélection à l'entrée dans une université, ou en tout cas à l'école de droit comme la nôtre, puisqu'il y a d'ores et déjà un certain nombre de filières, que ce soit les doubles diplômes thématiques, par exemple, ou les doubles diplômes internationaux qu'on a regroupés dans le cadre de l'ESL, qui déjà sélectionnent les étudiants. En revanche, la licence en droit, telle qu'on la connaît, elle ne sélectionne pas ses étudiants. Alors, bien sûr, nous avons des capacités d'accueil qui sont liées au personnel, qui sont liées au nombre de places dans les amphithéâtres, mais il n'y a pas de sélection à proprement dit des étudiants, et il n'y a pas de raison que la transformation en école induise une sélection des étudiants à l'entrée. En revanche, c'est vrai que nous, ce que nous attendons de nos étudiants, c'est des étudiants volontaires qui ont envie de travailler, qui se mettent effectivement dans cette dynamique-là, et c'est aussi là la création du BDE, de dire que au-delà effectivement de l'université, au sein de l'école de droit, on va tenter de créer un effet de corps qui va entraîner les étudiants. Bien sûr, on y veille beaucoup dans la bienveillance les uns avec les autres. Il n'y a pas forcément de concurrence, c'est ce qu'on leur dit souvent. Ils seront des confrères, ils seront des collègues, pas forcément des concurrents.
Comme dans la vie active. Quel impact ce changement de dénomination aura-t-il sur les formations ?
Alors ça, c'est j'ai envie de dire que c'est la prochaine grande étape, puisque effectivement nous avons un certain nombre d'étapes qui sont mises en place. 2025, c'est le changement de statut, donc on vient de le voir. Nous y sommes. Et puis la prochaine grande étape, c'est 2027, puisque l'objectif, c'est de revoir l'ensemble de la carte de formation donc que nous offrons aux étudiants. Aujourd'hui, nous offrons une vingtaine de parcours de licence. L'école de droit et la faculté avant aussi a déjà beaucoup changé par rapport à ce qu'on a pu connaître il y a une vingtaine d'années. Et puis une cinquantaine de parcours de master. Mais l'objectif, c'est au-delà des parcours eux-mêmes. C'est-à-dire clairement, effectivement, il faut que les parcours se renouvellent en fonction des métiers d'avenir qui se développent, avec le défi que nous devons voir avant quels seront les métiers dans quelques années. Mais au-delà de ça, l'objectif, c'est d'essayer de modifier relativement profondément les méthodes par lesquelles, effectivement, les étudiants apprennent le droit. On sait que les étudiants d'aujourd'hui ne sont pas forcément les mêmes qu'il y a 10, 15 ou 20 ans. Il faut s'adapter à eux, évidemment, tout en ayant des exigences. Il faut s'adapter aux nouvelles méthodes. L'IA est un bouleversement dans l'enseignement, et donc il va falloir prendre en compte dans cette carte de formation à la fois le contenu, bien sûr, qu'est-ce qu'on leur apprend, mais aussi la manière dont on va leur apprendre. Et là, pour nous, le défi est grand, parce que nous souhaitons évidemment mettre en place dès 2027 une formation qui sera adaptée aux 5 ou 6 années ensuite, donc au moins jusqu'en 2032, alors que tout va très vite. Et donc c'est pour nous un très grand défi, évidemment.
Grand défi,
on a deux ans, un peu moins de deux ans pour s'y préparer, on a déjà commencé.
Qu'est-ce qui a changé, Mathieu Pourmarette, par exemple, sur la façon des étudiants d'apprendre et d'étudier ?
Je pense qu'il y a plusieurs changements. Il y a des changements qui sont systémiques. Par exemple, aujourd'hui, tous nos étudiants, alors, c'est vrai que ça fait un peu vieux jeu de le dire, mais tous nos étudiants ont un ordinateur devant eux. Ça, c'est une vraie question, c'est-à-dire effectivement la prise de notes a disparu en réalité dans nos amphithéâtres, les ordinateurs ont pris place effectivement. Est-ce que c'est une bonne chose, est-ce que c'est une mauvaise chose? Je ne sais pas vraiment. Il y a des réflexions qui sont menées là-dessus. Certains établissements, notamment aux États-Unis, ont interdit l'utilisation de l'ordinateur, par exemple, pour revenir à une prise de notes qui permet une acquisition différente.
Oui, c'est ce que disent les orthophonistes, en tout cas. Oui.
Donc ça, c'est un premier point qui est important, en tout cas, si on se met de leur point de vue. Je pense qu'ensuite, les étudiants, c'est vrai que la présence d'un ordinateur fait que parfois, ils peuvent se disperser, c'est un autre sujet, pendant les cours, et c'est vrai qu'on les voit faire beaucoup de choses à la fois. On voit effectivement que la jeunesse arrive à faire plein de choses à la fois sur plusieurs écrans. Bref, je pense que moi je fais partie de ceux qui ne considèrent pas du tout que le niveau baisse de nos étudiants. Je pense que nos étudiants, ils sont tout aussi volontaires, tout aussi intelligents qu'on pouvait l'être il y a 30 ou 40 ans. Il y a des faiblesses, clairement. Le maniement de la langue française est une faiblesse de nos étudiants et c'est un point très important sur lequel on essaie de travailler, on travaillera encore plus. Donc je pense qu'il faut qu'ils comprennent effectivement que pour faire du droit, il faut bien manier la langue française à l'oral et à l'écrit.
Et ça peut passer par des cours d'orthographe dans les premières années, par exemple?
Oui, c'est compliqué. C'est-à-dire que je pense que ce n'est pas forcément à une école de droit de pallier ces difficultés-là. Je pense néanmoins que, les étudiants en prennent conscience. C'est-à-dire, je pense que ce qu'ils ne voyaient peut-être pas comme étant très utile au lycée ou qu'ils avaient délaissé un peu, quand ils arrivent chez nous, parce qu'on leur dit aussi, ils prennent conscience de l'importance. Donc, on a des dispositifs. On avait Voltaire, désormais c'est Écrit Plus, auxquels ils adhèrent. C'est-à-dire qu'ils volontairement, ils y vont. Après, est-ce qu'il faut aller au-delà, c'est-à-dire leur donner des cours d'orthographe ou des cours de français? Là aussi, j'avoue que c'est vrai que c'est ce qui existe dans d'autres pays, où on se met à faire des cours tout simplement de langue dans l'enseignement supérieur.
Et de culture générale aussi dans les premières
années.
J'avoue
que je préférais concentrer mes moyens sur le droit plutôt que faire des cours de français. Mais l'idée, c'est aussi de les inciter, de leur faire prendre conscience que c'est important. Et quand on est majeur, normalement, on doit pouvoir arriver soi-même, puisqu'on leur offre ces outils, à aller compenser ces difficultés-là. Donc je pense que nos étudiants, ils sont différents. Ils sont dans leur vie que ce que l'on pouvait être il y a 20 ou 30 ans, mais ils ne sont pas moins bons. Je pense que il faut que nous, on arrive à tirer le meilleur d'eux.
Oui,
en
bien
réalité.
Sûr. Est-ce que, monsieur le doyen, il a ce changement de statut, cette faculté de droit qui devient école de droit, a des répercussions pour une visibilité à l'international?
Oui, alors c'est aussi un des objectifs, puisque dans notre établissement qui est Université Toulouse Capital, on a un certain nombre d'objectifs que nous partageons. L'un d'entre eux, c'est l'internationalisation. Alors c'est certain, en fait, que un des objectifs, c'est effectivement d'accueillir davantage d'étudiants de nationalité étrangère, mais aussi de projeter davantage nos étudiants. Je pense là aussi que c'est une de nos missions, effectivement, de permettre à des jeunes étudiants pour lesquels, effectivement, ce n'était peut-être pas la priorité, de se dire, à un moment donné, il peut y avoir un intérêt d'aller à l'étranger et inversement de venir à Toulouse. Alors ça ne concerne pas tous nos étudiants. Il y aura toujours des étudiants qui auront la volonté de faire leurs études dans leur ensemble à Toulouse et c'est très bien ainsi. Mais je pense effectivement que nous gagnerons à avoir davantage de brassage d'étudiants au cours des 5 années que nous délivrons. Alors c'est déjà le cas. On a déjà significativement de nombreux étudiants qui viennent, mais pas suffisamment. Pas suffisamment, pour une raison assez simple, c'est-à-dire qu'effectivement, pour les étudiants francophones, notamment des pays d'Afrique, il n'y a pas vraiment de difficulté à venir, puisque nos cours sont essentiellement en français. Alors, je pense néanmoins qu'il faudrait mieux les accueillir, mais c'est un autre sujet. En revanche, effectivement, pour les étudiants qui ne sont pas francophones, et en réalité, même en Europe, ils sont nombreux à ne plus être francophones, ou à être francophones, mais de manière finalement assez partielle, il faut qu'on puisse...
Avec une maîtrise de l'anglais plus importante.
Voilà, il faut qu'on arrive à mettre en place effectivement un peu plus de cours en anglais. Donc c'est ce qu'on va expérimenter l'année prochaine. Alors évidemment, on ne va pas faire du droit français en anglais, pas du droit de la famille en anglais, ça n'a pas de sens. Mais il y a certains cours qui s'y prêtent, les cours de droit international ou le cours de droit européen peuvent s'y prêter. Et l'année prochaine, pour la première fois en licence, on va expérimenter un cours de droit européen en anglais. Alors avec un public un peu choisi, soyons clairs, mais pour voir un peu quelles sont les réactions et auprès de nos étudiants d'abord, c'est-à-dire est-ce qu'ils peuvent faire cet effort. Alors bien évidemment avec un enseignant bienveillant qui aura un support, enfin qui va faciliter les choses. Et puis aussi dans cette optique de dire on peut offrir à des étudiants qui maîtrisent un peu le français mais qui ont besoin aussi d'anglais de dire venez chez nous, il y a une partie qui pourra être suivi en anglais. Puis ensuite, pour le français, bien évidemment, vous aurez des cours. Donc voilà un peu l'objectif.
Et est-ce que l'école de droit va mettre en place des cours d'anglais pour arriver justement à suivre
oui,
ce genre de cursus.
C'est déjà le cas, c'est-à-dire que d'ores et déjà, en réalité, donc on a des filières qui s'adressent à donc des filières internationales, hein, qui sont dans la European School of Law, qu'on a regroupées dans cet ensemble-là. Ces filières-là, effectivement, elles s'adressent à des étudiants qui d'ores et déjà maîtrisent, on va dire, au moins une langue, et puis par leur histoire familiale, peut-être, se déplacent plus facilement. Et puis ensuite, l'objectif, c'est d'attirer d'autres étudiants. Donc on a créé des dispositifs. Alors bien sûr qu'il y a des cours en anglais, hein. Ça, c'est une des forces de notre université, hein. Nous nous appuyons sur l'université, et l'université a un département des langues dans lequel on peut apprendre absolument toutes les langues, vraiment toutes les langues, et à tous les niveaux, au-delà, hein, de ce que l'on offre dans le cursus classique. Et puis on a des dispositifs, par exemple, on a mis en place un dispositif qui est la licence internationale en 4 ans. L'objectif, c'est de dire à des étudiants qui ont envie de partir, mais en même temps qui veulent quand même faire leur cursus, de dire bah, la troisième année, vous n'allez pas pouvoir partir, on leur donne des cours en deuxième année de langue pour améliorer effectivement et les mettre en position de pouvoir partir. Et puis ensuite, ils reviennent faire leur troisième année à Toulouse. Donc on a ces dispositifs-là qui existent déjà. Bien sûr, il faut faire plus, il faut faire mieux. Mais déjà, ça commence.
Voilà, en tout cas, vous êtes lancé cette faculté de droit et sciences politiques qui devient l'école de droit de Toulouse. Merci beaucoup, Mathieu Pomerel.
Merci à vous de votre accueil.